l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Lannemezan, 92.2.
Voilà, on termine cette matinée en votre compagnie ici. Merci, c'est de votre fidélité pour ce Présence Midi. Alors au sommaire de ce programme, dans quelques instants, nous allons entendre, ou peut-être réentendre, une interview que nous avions faite avec un grand évêque qui s'appelle Jean-Yves Rieucreux. Il était de passage à Lourdes il y a quelques semaines et on l'avait interviewé sur ce que représentait Lourdes pour lui. Vous entendrez son commentaire d'ici quelques instants. Et puis durant l'été, une dizaine de jeunes ont participé à un chantier organisé par le Grand Auch Cœur de Gascogne. Un projet intitulé « Et si on terminait la cathédrale ?» C'est porté par l'association Images et inclus dans un dispositif national « C'est mon patrimoine ».
Présence à Ax-les-Thermes, 92.7.
C'est un ami de la radio que nous recevons aujourd'hui. Bonjour, Monseigneur Jean-Yves Rieucreux.
Bonjour, Philippe. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Présence et d'autres radios.
Et c'est un plaisir de vous accueillir ici à Radio Présence. Vous êtes de passage à Lourdes pour quelques jours. À l'heure où on enregistre cette interview, vous êtes donc à Lourdes, mais vous partez dimanche. Donc, comme le son passera lundi, vous serez déjà parti à l'heure où on enregistre. Mais vous êtes de passage à Lourdes et avec le diocèse de Saint-Étienne.
Je réside dans le diocèse de Saint-Étienne depuis 2 ans, après avoir pris ma retraite, si on peut dire, de la Guadeloupe, où j'étais évêque. Et le diocèse de Saint-Étienne a une particularité en cette période, c'est que le siège est vacant. Monseigneur Sylvain Bataille a été nommé par le pape Léon XIV archevêque de Bourges au mois de novembre dernier. Et donc, à Saint-Étienne, comme dans d'autres diocèses, on attend un évêque, mais l'évêque émérite que je suis, en résidence dans le diocèse de Saint-Étienne, j'ai accepté de venir présider le pèlerinage. Nous sommes 750 et de participer à un pèlerinage comme je l'ai fait maintes fois avec le diocèse de Pontoise, où j'ai été évêque pendant 9 années, puis avec le diocèse aussi de Guadeloupe. Et c'est toujours une très grande joie de venir ici à Lourdes pour vivre un pèlerinage, et en particulier en cette semaine qui était la semaine dite in albis, c'est-à-dire la semaine en blanc, c'est-à-dire on est avec le souvenir et l'action de grâce des baptisés de Pâques. Alors il y a un lien vraiment entre aussi cette semaine après Pâques, puisque on entend les textes qui nous disent vous êtes mes témoins, les témoins du Christ ressuscité, et nous venons pour être aussi les témoins de ce que nous vivons ici à Lourdes, et que donc je peux le témoigner bien sûr par cette émission et par les questions que vous me posez pour dire que c'est toujours vraiment une grande grâce de venir et de vivre intensément un pèlerinage avec bien sûr la messe internationale le mercredi, l'onction des malades qui a été donnée le jeudi, et puis la messe à la grotte, à la messe à la grotte que nous avons eue ce vendredi.
Alors, les gens, si vous ne le connaissez pas, vous avez 80 ans, on le dirait pas. Vous avez toujours une pêche d'enfer, toujours le sourire. Et chaque fois que vous venez à Lourdes, vous venez toujours nous dire un petit bonjour. C'est important pour vous, la radio?
Mais oui, parce que j'ai fait de la radio depuis mon ordination, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans de cela, en Nouvelle-Calédonie, où j'ai été prêtre pendant 12 ans. Et puis après, je suis venu à Paris pour être prêtre différents lieux, différentes paroisses avec les jeunes, l'Institut catholique, curé de Saint-Ferdinand d'Éterne, recteur de Notre-Dame de Paris. Et il y a toujours eu cette attention et cette communication, puisque en Radio Notre-Dame à Paris, au moment de la création de KTO, il y a 25 ans de cela, et donc, et puis que chaque fois que je venais à Lourdes, et je pense ici aux deux voyages de visite du pape Jean-Paul II en 2004, et puis Benoît XVI en 2008, eh bien je m'associais tout naturellement pour participer justement à la communication sur ces grands événements, et c'est la raison pour laquelle, Philippe, je suis toujours très heureux de venir tout simplement vous saluer en ami, et puis de venir donner quelques nouvelles et quelques informations, et de voir que Lourdes est un lieu unique. On a pu le voir d'ailleurs dans une très belle émission qui est passée mercredi dernier dans le cadre
avec Stéphane
Bern. C'est magnifique parce que ça présente très bien ce qu'est Lourdes, son message, les malades, puisque c'était le titre de l'émission, c'était même Lourdes et les malades, miracles. Et puis les guérisons qui ont eu lieu dès les apparitions en 1858, et puis depuis plus de 150 ans, ce sanctuaire qui est un sanctuaire unique au monde.
Vous êtes l'évêque émérite de Guadeloupe et de Pontoise. On va bien sûr s'arrêter dans quelques instants sur votre parcours en Calédonie, puis en Guadeloupe, où vous avez remis un peu d'ordre et vous avez reboosté un peu Radio Massabielle. On va d'ailleurs saluer nos collègues de Radio Massabielle.
Nous saluons ainsi tous les auditeurs de Radio Massabielle là-bas en Guadeloupe.
Radio Massabielle ici à Lourdes, c'est quelque chose, c'est quelque chose d'important pour vous.
Eh bien oui, je vais vous expliquer d'ailleurs comment a été fondée cette radio en Guadeloupe dans les années 1980 par un prêtre spiritain, et comme il était dans la paroisse dite de Massabielle, puisqu'il y a une paroisse qui s'appelle Massabielle, où il y a bien sûr la statue de Notre-Dame de Lourdes, eh bien il l'a appelé Radio Massabielle. Alors il est normal qu'il y ait un lien entre Radio Massabielle et donc la grotte de Massabielle, bien sûr. Tous les jours, le chapelet est diffusé là-bas aux Antilles, comme il est diffusé dans le monde entier. Et donc, quand je suis arrivé comme évêque de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, les deux villes, mais c'est le titre pour l'évêque de Guadeloupe. Basse-Terre, c'est la capitale, et puis Pointe-à-Pitre, c'est aussi capitale économique. Eh bien, tout naturellement, je découvre avec bonheur qu'il y a cette radio. Eh bien, alors, on a développé la radio, permettant ainsi la diffusion et de la parole de Dieu, la prière et les témoignages et c'est une radio qui est très, très écoutée, on va dire, comme toutes les radios chrétiennes en France.
Ça représente quoi pour vous, monsieur Lourdes?
À Lourdes, j'y suis venu, j'aime à évoquer ce premier souvenir. J'étais enfant, j'avais 12 ans, c'était en 1958, avec mes parents et puis mes frères et sœurs, nous sommes venus ici à Lourdes. Alors, l'enfant que j'étais, il comprenait peut-être pas toute l'importance, on était impressionnés par le cadre. J'ai vécu cela, puis après je suis revenu comme jeune, à 20 ans, et ensuite, en étant en Nouvelle-Calédonie, bien, je venais plus rarement, on va dire. Mais après, comme évêque donc de Pontoise pendant 9 années, comme évêque de Guadeloupe, on vient chaque année, nous les évêques, à Lourdes. Et c'est toujours un très beau moment, parce que c'est un moment très intense de prière, de travail en commun, et nous sommes en face de la grotte. Alors Lourdes, c'est un lieu où on aime à venir, parce que on sait ce qui s'est passé en 1858, et on a vécu les grands événements que j'ai évoqués évoquer, c'est-à-dire de la visite de Jean-Paul II, de la visite de Benoît XVI, et on espère, je suis sûr qu'il viendra, le pape Léon, le pape François lui-même voulait venir. Eh ben, il n'a pas pu réaliser son souhait, pour différentes circonstances, mais ce lieu est unique parce que, la prière, on va dire en permanence, la prière, puis les malades, c'est aussi la grâce de Lourdes pour les malades, lors de la messe donc dans la basilique Saint-Pédis avec les malades et les hospitaliers. Et j'ai donné le sacrement des malades avec les prêtres présents. Et on voit comment ils sont, on est heureux d'être ensemble. Et en pensant, bien sûr, à Bernadette, qui elle-même a été malade. J'aime à dire d'ailleurs aussi que Bernadette, comme vous le savez, eh bien, elle a reçu 4 fois le sacrement de l'onction des malades, parce qu'elle était toujours malade. Et donc, elle est morte à 35 ans, à 9 heures après ses années comme religieuse dans le couvent de Saint-Gildard à 9 heures. Et puis elle a été plusieurs fois, on va dire, aux abois de la mort, on lui a donné l'onction des malades. Et je pense, et je l'ai dit aussi, l'onction des malades, mais aussi les confessions. On a donné le sacrement de pénitence en abondance, on va dire, parce que on est là à Lourdes comme pour une grande retraite. Et une retraite spirituelle, bien c'est cette retraite spirituelle que je viens de vivre avec le diocèse de Saint-Étienne, et au-delà, puisqu'il y avait aussi de nombreux autres diocèses, et que nous avons été très heureux d'être ensemble, tout simplement.
Vous êtes allé donc dans les départements d'outre-mer.
Oui.
Quelle est la différence? Vous avez découvert une autre église là-bas?
Oui, une église vivante et jeune. Que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou même à Wallis et Futuna, où j'étais au début de l'année pour prêcher la retraite, et en pensant à La Réunion, en pensant à Martinique, Guadeloupe, Guyane, c'est-à-dire c'est la richesse aussi de ces églises que j'ai eu la grâce de découvrir comme prêtre et ensuite comme évêque, et en donnant les échos de ces églises, parce qu'en plus ils sont français, donc ils viennent régulièrement en France. Et beaucoup aiment à venir à Lourdes. Je pense aux Antillais qui viennent, même individuellement. Je reçois des témoignages, je veux dire, presque chaque semaine de fidèles Antillais qui me disent « On est venu à Lourdes et ils sont heureux de venir ici pour prier avec le peuple de Dieu. » Je crois que la grâce de Lourdes, c'est cette universalité. Mmh. Universalité, puisque le message est parti de là, de cette grotte, il y a 160 ans. Eh bien, ce message, il a été aussi pour l'Église universelle, puisque c'est le monde entier. Je suis très frappé aussi de voir beaucoup de pèlerins qui viennent. On avait le fameux pèlerinage du HCBT, c'est-à-dire avec les anglophones, et on m'a expliqué que c'est pour les enfants handicapés.
Oui.
Ils font ça d'une manière presque familiale. Et donc, c'est aussi tout ce qui se passe à Lourdes depuis un siècle et demi, et qui est le message tout simplement de l'Évangile annoncé par la Vierge Marie à Bernadette. Ce qui me fascine aussi, c'est une Vierge, et là, Notre-Dame qui dit peu de choses, quelques phrases, et en particulier le 25 mars 1858, « Je suis l'Immaculée Conception ». Alors, et quand la petite Bernadette donc a entendu ce message, elle ne comprenait même pas ce message qui lui était transmis, mais l'abbé Peyramale, lui, curé de Lourdes à l'époque, il a compris que cette fille de Bernadette, elle n'avait pas inventé ce message, elle ne le comprenait pas, et c'est d'ailleurs ce qui est inscrit en dessous de la statue.
Ouais.
Et c'est inscrit dans le patois, puisque que soit Immaculata Conception, je suis l'Immaculée Conception. Le dogme venait d'être proclamé en 1854, et 4 années plus tard, la Vierge Marie vient en quelque sorte répondre. Puis alors, il y a un aspect aussi à Lourdes, dont je parle aussi quand on me demande de dire ce qu'est Lourdes, c'est une Vierge au sourire. elle sourit, y compris lorsque Bernadette lui demande, viens, lui a eu quand même une feuille de papier, le plus, donnez, écrivez-moi votre nom. Et c'était au mois de février, et il a fallu attendre le 25 mars, c'est-à-dire quelques semaines plus tard. Et le lien qu'il y a, et qui a été étudié d'une manière très précise, je pense à Monseigneur Jacques Perrier, qui connaît bien le message, qui a été évêque pendant 15 ans de ce diocèse, et qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup réfléchi, pour montrer que c'est le carême de l'an 1858 qui a conduit l'abbé Père Amali cherchait un prédicateur, il n'y avait pas de prédicateur pour sa paroisse, et bien il a eu la Sainte Vierge qui a prêché en quelque sorte, qui a donné les messages à Bernadette, qui les a répercutés, puis Bernadette qui a dit, je ne suis pas chargé de vous le faire croire, mais je suis chargé de vous le dire.
Eh oui.
C'est aussi un lieu d'évangélisation unique, par le fait de ces apparitions. Alors, et par le fait des pèlerins qui sont venus par millions depuis les apparitions.
Alors Lourdes change de visage à chaque pèlerinage. Vous avez parlé d'Achipiti, avec les Anglais qui viennent avec des tenues excentriques pour accompagner les enfants malades. Mmh. On parle du pèlerinage des militaires, où là c'est encore un autre visage. On parle des anciens combattants de Maroc, dont vous avez présidé.
À plusieurs reprises, puisque j'ai découvert par le père Régis Marie de la Tessonnière, qui est connu ici, il m'a dit, ce serait bien si tu acceptais de venir présider. Mais j'ai dit, mais je suis en Guadeloupe, c'était en 2016, et je suis venu, et j'ai été fasciné par ces anciens d'Algérie, qui, à la suite d'ailleurs de ce qui s'était passé après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire les pèlerinages des prisonniers ou les pèlerinages des anciens combattants, qui sont venus pendant 30 ans, et à partir des années 1980, on a créé ce pèlerinage avec des milliers de pèlerins qui avaient le souvenir de leur temps en Algérie. Ça a été une période très très difficile dans les années 1960, et qui se sont retrouvés ici, et qui se sont même retrouvés pour certains. Et alors avec ce déploiement, on va dire, de drapeaux, donc d'anciens combattants, mais de retrouvailles, et ce pèlerinage qui, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire continue le pèlerinage dit des vétérans.
Des vétérans.
Et je pense en particulier aussi, comme ancien évêque de Pontoise, à la joie que nous avions de venir tous les deux ans avec les adolescents pour le pèlerinage du fraternel, qui aura lieu l'année prochaine, je crois. Et c'est une initiative heureuse qui a été lancée en 1908 par un prêtre de Paris qui a emmené quelques garçons, et ça s'est développé au fil des années pour aboutir à ce rendez-vous qui est un rendez-vous joyeux et heureux avec les jeunes. Je pense aussi au pèlerinage militaire international qui a lieu chaque année et qui regroupe là des militaires de tout pays. C'est unique au monde, et on y pense en particulier en ce temps terrible que nous vivons, c'est-à-dire en ce temps de guerre, et dans l'espérance et dans la prière pour la paix.
Vous qui avez connu Lourdes sur différents sujets, aspects, vous êtes venu régulièrement en tant qu'évêque, bien sûr, à la Conférence des évêques de France. Vous avez accompagné des pèlerinages, vous avez accompagné vos diocèses. Après le Covid, on a eu une grande baisse.
Oui.
Ça redémarre. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne connaissait pas Lourdes et vous dire « venez à Lourdes ». Qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour le convaincre?
Venez, tout simplement. Venez passer, même ne serait-ce qu'une heure. Vous venez à la grotte. Vous voyez là le recueillement le plus complet. Et puis si vous avez la possibilité de participer à un office, c'est encore mieux. Et ensuite, vous venez un jour et vous reviendrez avec un pèlerinage. Parce que le pèlerinage, il y a tout un ensemble, parce qu'on le vit justement avec d'autres, et puis on est accompagné. Et c'est ça qui est très beau, parce que vous avez évoqué les années difficiles 2020-2021 et au-delà, et maintenant, et c'est le retour des pèlerins qui reviennent en diocèse pour tous les diocèses de France, et je pense aussi aux Italiens qui sont très, très présents, et puis Monseigneur Jean-Marc Mica invite à sa table chaque semaine les évêques. On s'est retrouvé avec des évêques d'Écosse et d'Italie, et on vit au fond ce qui est aussi la catholicité, c'est-à-dire l'universalité et la, la joie de se savoir aimé par Dieu et d'avoir le sourire de la Vierge Marie pour chacune et chacun d'entre nous.
Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Yves Rioqueux. Vous êtes l'évêque émérite donc de Guadeloupe et de Pontoise. Merci d'être venu jusqu'à nous. Bon vent à vous. Et puis, on espère vous retrouver très rapidement à ces micros. Et puis, on va saluer, bien sûr, tous les gens de Radio Massabielle si nous écoutent.
Merci.
Présence à Millau, 106.5.
Durant l'été, une dizaine de jeunes ont participé à un chantier organisé par le Grand Auch Cœur de Gascogne, un projet intitulé « Et si on terminait la cathédrale ?» porté par l'association Images et inclus dans le dispositif national « C'est mon patrimoine ». Les participants ont choisi de mettre en avant quatre personnalités gersoises ayant contribué au rayonnement de la ville d'Auch, l'abbé André de la Vénère, qui fut à l'origine du Pop Circus, Martine Prieur, athlète handisport, André Daguin, chef cuisinier, et Jeannine Maurice, résistante lors de la Seconde Guerre mondiale. Durant quatre matinées, les portraits ont été reproduits sur les bâches adaptées aux dimensions des niches placées sur la cathédrale. Avec l'aide de Laure Bellion, plasticienne et dessinatrice, les figures seront visibles jusqu'au week-end du patrimoine. Je vous propose d'écouter l'interview de Laure Bellion et de Michel Heyman Masserli, fils de Jeannine Maurice. Ils sont tous les deux au micro de Pauline Cazier.
Oui, donc je suis Laure Bellion, artiste plasticienne dans le Gers. Et donc, j'interviens sur le chantier jeune artistique sur Roche avec l'association Images et donc Yann Grandjean qui coach un peu tout le projet. J'interviens en tant qu'artiste peintre quoi, pour aider les jeunes qui participent à réaliser le projet comme on l'a pensé quoi.
Alors ce projet, en quoi consiste-t-il ?
Alors cette année donc nous avons proposé donc de remplacer les statues qui auraient dû être là à l'origine dans la cathédrale d'Auch, dans les niches. Il y a une douzaine de niches qui sont vides, qui auraient dû être remplies avec des statues. Et donc, on leur propose de faire des trompe-l'œil avec des personnages importants de la ville d'Auch. Donc, on a choisi quatre personnages. Donc, André Daguin, chef cuisinier, l'abbé de la Vezère, qui est le créateur du Pop Circus, Martine Prieur qui est championne olympique en paralympique et Jeannine Maurice qui est une résistante voilà, durant la guerre quoi. Enfin,
ça a été compliqué de choisir parce qu'il y a d'autres, beaucoup de personnalités.
Choix, voilà, moi j'ai tenu à ce qu'il y ait aussi des femmes, enfin qu'il y ait des femmes. Enfin, bon, voilà, donc on a trouvé, enfin Yann il a trouvé des personnes importantes. Quoi. Donc les jeunes, ils arrivent, ils savent pas trop dans quel chantier ils sont inscrits. On leur a proposé, donc on leur a donné des images imprimées et ils ont agrandi au carreau sur des fonds, des bâches déjà imprimées avec les niches et ils dessinent, redessinent dessus la personne et ils essayent de traduire la photo en quelque chose qui est plutôt dans des teintes de pierre quoi, avec une couleur claire et puis des ombres, enfin c'est un travail de peinture d'ombre et de lumière pour retraduire le volume qui se voit de loin, enfin bon.
Et voilà. Combien de temps a duré ce chantier ?
Là, 4 demi-journées, 4 matinées. Ce matin on est les 3 premières matinées se déroulaient dans la salle du Criart, la salle de concert là. Et puis ce matin on est venu sur place là, travailler en direct pour faire les finitions et puis installer les bâches dans les niches. Voilà.
Alors ça, le public pourra voir ces quatre figures. Combien de temps sur la cathédrale ?
Ça, c'est un peu flou, on ne sait pas trop, parce qu'il y a l'autorisation du bâtiment de France, il y a le diocèse, et voilà. On ne sait pas trop. Je crois qu'il y a des négociations en cours pour que ça dure jusqu'aux journées du patrimoine. Il y a 5 ans, on avait déjà fait un projet comme ça avec plutôt les bâtisseurs de la cathédrale. Donc il y avait un maçon, un tailleur de pierre, enfin un menuisier ou un charpentier, enfin bon. Des métiers liés au patrimoine et ça, voilà, on avait réussi à les laisser jusqu'aux journées du patrimoine au mois de septembre. Quoi.
Alors, vous êtes monsieur ?
Michel Heyman Messerli, le fils de Jeannine Maurice, puisque Maurice, c'est son nom de naissance à ma maman.
Alors, Jeannine Maurice, oui, c'est une des quatre personnalités qui maintenant est sur la façade de la cathédrale d'Auch. Alors, j'imagine une grande fierté.
Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, je suis très, très intéressé par le fait qu'ils aient choisi quatre personnes emblématiques de la ville d'Auch. Et sur les quatre personnes qu'ils ont choisies, j'en connaissais déjà deux autres. Je viens de faire la connaissance de Martine Prieur, donc je les connais maintenant tous les trois autres. Et évidemment que ma maman soit l'une des quatre, ça me fait beaucoup plaisir. Voilà.
Pour ceux qui ne la connaissent pas, votre maman, en quelques mots, son parcours de résistante.
Alors, ma maman faisait partie d'un groupe d'étudiants à Paris, mais qui étaient des Gascons de Paris, et qui étaient aussi... Ils étaient une douzaine à s'être repliés en 40 dans leur famille à Auch, et ils se réunissaient tous les soirs à la bibliothèque d'Auch pour envisager, c'était bien avant l'appel du général de Gaulle, pour envisager de monter un réseau de résistance, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre. Et ils se réunissaient donc tous les soirs. L'appel du général de Gaulle était le 18 juin 40 à 22h30, et ils l'ont entendu en direct, parce qu'ils écoutaient évidemment Radio Londres. Et là, ce soir-là, ils ont monté, donc le 18 juin 40, un réseau de résistance, voilà. Alors, ce réseau a été ensuite affilié à un réseau toulousain, et ma maman a été très, très active. Alors, elle était leader dans ce mouvement, et elle a fait partie d'un groupe. Elle avait un parachutiste anglais caché ici, au 48 rue des Saules, chez sa maman, avec un poste émetteur qu'elle a été lui chercher à Toulouse et lui ramener à la barbe des Allemands. Et puis, ils devaient faire sauter la poudrerie de Toulouse. Ils se sont fait piquer. Et donc, ils ont été les uns fusillés, les autres déportés. Elle a été déportée. Elle a passé 3 ans en Allemagne, donc 2 hivers là-bas. Et voilà.
Et elle est décédée quand ?
Elle est décédée en septembre 2021, à l'âge de 100 ans et 3 mois, la dernière survivante de Midi-Pyrénées, des résistants déportés.
Voilà pour ce beau projet et cette interview de Laure Bellion et de Michel Eman Messerfi, fils de Jeannine Maurice, qui étaient tous les deux donc interviewés par Pauline Cazier, notre correspondante dans le Gers.
Présence à Tarbes et Lourdes, 96.
Et à 12h30, on retrouve l'actualité tout de suite avec les étudiants de l'école de journalisme de Toulouse. Bonjour.
Bonjour à tous. À la une de ce mercredi 26 août 2026, un impressionnant incendie sur le périphérique toulousain. Mardi après-midi, vers 16h30, un immense panache de fumée noire s'est élevé au-dessus de la ville rose, visible à plusieurs kilomètres à la ronde. En cause, un poids lourd avec sa remorque qui a pris feu sur le périphérique extérieur, au niveau de l'entrée des ponts jumeaux dans le quartier des Sept-Deniers au nord-ouest de Toulouse. Les flammes se sont rapidement propagées à la végétation en bord de voie rapide, obligeant les pompiers de Haute-Garonne à intervenir pour éviter l'embrasement. Vers 16h50, le feu était en cours de maîtrise. Conséquence directe, le périphérique extérieur a été coupé à la circulation au niveau du sinistre, provoquant un bouchon de plusieurs kilomètres dès 17h depuis la barrière de péage Toulouse-Nord. Vinci Autoroute conseille aux automobilistes en provenance de Bordeaux de contourner Toulouse par le périphérique intérieur en direction de Montpellier. Grande première pour l'aéroport de Toulouse-Blagnac. La compagnie américaine United Airlines a annoncé ce mardi la mise en place d'un vol direct et quotidien entre Toulouse et Washington. À partir du 26 avril 2027, la liaison sera assurée à bord d'un Airbus A321XLR capable de pouvoir parcourir jusqu'à 8700 km, largement de quoi couvrir les 6300 km qui séparent les deux villes. C'est la première fois qu'une liaison commerciale directe et régulière est établie entre la capitale de l'aéronautique et les États-Unis, un serpent de mer évoqué depuis des années, notamment autour d'une hypothétique Toulouse-New York, restée sans suite malgré plusieurs annonces depuis 2013. United Airlines a par ailleurs annoncé l'ouverture de 10 nouvelles lignes internationales entre mars et juin 2027, dont un Marseille-New York. Nouvelle grosse prise pour les douanes en Haute-Garonne. Lundi dernier à Mel, près de la frontière espagnole, un automobiliste a été contrôlé par la brigade des douanes de Sierp-Gaux. L'homme d'origine portugaise et résident dans le Maine-et-Loire a affirmé n'avoir ramené que quelques cartouches de cigarettes pour sa consommation personnelle. En réalité, les douaniers ont ouvert plusieurs cartons dissimulés sous des couvertures contenant 237 cartouches de cigarettes espagnoles, soit près de 50 kilos de tabac ainsi que 3,5 kilos de tabac à narguilé. Placé en retenue douanière, l'homme risque jusqu'à 3 ans de prison et une amende pouvant dépasser les 30 000 euros. Il sera convoqué dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité sur l'instruction du parquet de Saint-Gaudens. Et puis, grosse frayeur pour une famille de Pille dans le Gers. Dans la soirée du lundi 24 août, un incendie s'est déclaré dans une maison de cette commune de Lomagne. Alerté vers 21h50, les sapeurs-pompiers ont rapidement engagé d'importants moyens de secours. À leur arrivée, le feu avait déjà gagné une partie de la bâtisse. Grâce à leur intervention, les flammes ont pu être maîtrisées, une bonne partie de la maison préservée. Les occupants, eux, avaient réussi à quitter les lieux, à se mettre en sécurité. Aucun blessé n'est à déplorer. Les gendarmes de Fleurance se sont rendus sur place pour les premières constatations. Selon les premiers éléments, la prise accidentelle est privilégiée avec un possible court-circuit électrique à l'origine du sinistre. Les occupants ont été relogés chez leurs proches en attendant des travaux. Après un été éprouvant, des milliers de poules de réforme cherchent une famille dans le sud-ouest. L'association Champ Libre aux Poules, CLAP, organise une journée d'adoption le samedi 29 août de 10h à midi à Mascla dans le Lot. Ces poules envoyées à l'abattoir vers 18 mois lorsque leur rendement diminue arrivent parfois affaiblies ou déplumées après les fortes chaleurs de l'été. L'association leur offre une seconde vie comme animaux de compagnie dans le cadre d'une charte éthique excluant toute revente ou consommation. Les personnes intéressées doivent obligatoirement s'inscrire en ligne sur le site de l'association, adresse exacte du lieu n'étant communiquée qu'après validation de la réservation. Et puis enfin, le sanctuaire de Lourdes se prépare à une visite historique. Le pape Léon XIV foulera la cité mariale les 26 et 27 septembre dans le cadre de son voyage apostolique en France. Ce sera la première venue du pape à Lourdes depuis près de 20 ans, c'était Benoît XVI. Le programme prévoit son arrivée le samedi 26 septembre en fin de journée à l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, suivi d'un temps de prière à la grotte des Apparitions. Le dimanche 27 août, il rencontrera les évêques de France dans l'amphithéâtre de la conférence épiscopale. Le matin, il présidera la messe dominicale sur la prairie du sanctuaire à 11h, puis ira à la rencontre des malades et des hospitaliers l'après-midi, avant une prière du soir. Pour accueillir cet événement d'ampleur, le sanctuaire a mis en place une logistique hors norme. Plus de 10 km de barrières de sécurité, plus de 2000 bénévoles mobilisés, près de 1000 sanitaires temporaires, plus de 10 écrans pour retransmettre la messe, un podium de 400 places pour les évêques et cardinaux et près de 1500 prêtres attendus. Un centre presse international accueillera environ 1000 journalistes. La messe gratuite est ouverte à tous dans la limite des places disponibles, nécessite d'arriver au moins 3 heures à l'avance pour passer les contrôles de sécurité. Une campagne de dons a été lancée pour financer cet accueil exceptionnel.
Radio Présence à Pau, 96.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arrabal, Philippe Subercase.
Un jour, un livre, un auteur prend la route aujourd'hui vers Saint-Gétorix. Non, ce n'est pas la ville de Saint-Gétorix. Je parle bien du personnage de Vers Saint-Gétorix. C'est vrai qu'on pourrait faire effectivement l'erreur. Entretien avec Vers Saint-Gétorix en auto-édition de Grégory Chanfron, que nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir sur le plateau de Présence. Bonjour Grégory.
Bonjour Philippe, bonjour Diego.
Bonjour Diego Arrabal.
Bonjour Philippe, bonjour Grégory.
Alors, et si nous partions à la rencontre de Vercingétorix, ce personnage emblématique de l'histoire de notre pays, pour une interview exceptionnelle, farfelue, pas tant que ça. Entretien avec Vercingétorix, c'est un roman biographique raconté par le général gaulois à son co-détenu. Cela se déroule dans les prisons romaines, un jour avant la mort de Vercingétorix. Pour en parler, Grégory Chanfraud, on vous reçoit. Une interview de Vercingétorix. D'où vous est venue cette idée qui pourrait sembler saugrenue à première vue?
Alors, elle paraît saugrenue parce que oui, Vercingétorix nous a quittés, c'était pas hier, bien sûr. Cette idée m'est venue après plusieurs lectures de diverses thèses ou divers livres sur Vercingétorix, des livres biographiques, J'ai pu trouver parfois un peu rébarbatif, on va dire, un peu pesant à lire. J'avais une demande gigantesque sur le sujet Vercingétorix, justement, et notamment sur des faits de la guerre des Gaules un peu étranges. Un peu resté sans réponse.
Un angle mort, c'était un des angles morts du travail des historiens, c'est ça que vous voulez dire ?
Oui, je ne me remets pas en cause des historiens, loin de là.
Un angle mort, je parle d'un angle mort, donc quelque chose qui n'aurait pas été étudié, ouais.
Oui, ou qui aurait été un peu mis de côté et pas assez étudié, justement.
Et pour quelle raison ?
Ben, je pense notamment à sa reddition. Sa reddition qui, dans le fond, si on regarde bien, n'en est pas une.
Sa reddition, donc on rappelle à Jules César. Hein.
Sa reddition à Alésia, tout à fait, puisque donc j'en parle bien sûr dans le livre. Sa reddition se déroule après la fuite de deux chefs emblématiques qui se nomment Lucterios et Drapès, donc le chef des Cadurques, donc du Lot, et Drapès, chef des Sénons, donc dans le bassin parisien, qui vont se réfugier dans le Lot par la suite et continuer la lutte. Face aux légions romaines de Jules César.
Donc ça on a oui, par la suite, c'est après Alésia. C'est après
Alésia, bien sûr. Parce que dans l'idée collective et scolaire, hein, finalement, la guerre des Gaules se résume souvent à Gergovie et Alésia, dont la victoire de Vercingétorix, puis sa défaite, donc sa reddition. Certes, sa reddition a eu lieu, mais la guerre des Gaules n'est pas terminée.
Ah d'accord, parce que alors, moi je pensais qu'effectivement, que la guerre des Gaules se terminait à partir d'Alésia.
C'est ce qu'on pense souvent. Alors la guerre des Gaules démarre avant Gergovie et finit après Alésia. Et ce qu'on sait peu, c'est qu'il y a une bataille incroyable à Uxellodunum. Uxellodunum qui est dans le Lot du côté de Martel. Alors moi je m'y suis rendu, c'est un oppidum très ardu, un ancien village élevé et fortifié. Quand vous arrivez dans le secteur... Vous commencez à avoir des panneaux un peu partout où il y a écrit le lieu de la dernière bataille.
D'accord.
C'est très connu là-bas. Et ça, nationalement, on le sait très peu. C'est très, très dommageable, je trouve.
C'est à côté d'où, là, dans le Lot, vous êtes capable de nous le situer ? C'est à côté d'une grande ville, de Cahors, de...
Martel, la plus grande... C'est environ à... Si, je ne veux pas dire de bêtises. Hein, je crois que c'est environ à trois quarts d'heure de Cahors.
D'accord, trois quarts d'heure de Cahors. Voilà. On va laisser Diego Arrabal, je sais qu'en général, il nous rend toujours service, Diego Arrabal, pour nous dire exactement où se situe Martel dans le Lot et revenir vers nous après, effectivement, pour nous situer. C'est notre boussole, hein, donc, Diego Arrabal, dans cette émission.
Donc, finalement,
tant que c'est pas la girouette.
Tant que c'est pas la girouette, exactement.
Vous me redites le nom.
Uxellodunum.
Sur le journal là de la Petite République, donc en préparant cette émission, donc vous avez donné une interview et on peut lire ceci. Donc sur votre livre, hein, on va le montrer en couverture. Voilà, ça y est, donc il passe. Hein. Entretien donc avec Vercingétorix, donc en auto-édition. Sur le journal de la Petite République, donc on peut lire ceci. Rien n'est laissé au hasard. De son enfance jusqu'à sa reddition, laquelle il sera décortiqué pour découvrir des secrets oubliés, en passant par son parcours militaire, des faits non élucidés, des décisions prises par Vercingétorix sont évoquées par l'auteur, qui remet en question certains points de l'histoire officielle et élimine des théories farfelues avec brio et clairvoyance. Alors c'est de ça dont vous allez nous parler, de nous expliquer un peu comment ces points-là, vous avez pu les retrouver ? Est-ce qu'il y a des textes ? Est-ce qu'il y a des éléments qui datent de l'époque qui attestent effectivement de ces faits-là ?
Alors, avant toute chose, j'ai une passion surdimensionnée pour Vercingétorix depuis mon enfance. Ce qui aide, puisque je me suis renseigné très tôt déjà, bien sûr, bon, dans les grandes lignes, hein, lorsque j'étais enfant. Et sur le tard, je me suis mis à plus rechercher sérieusement. Et notamment, puisque ils sont indissociables, j'ai beaucoup recherché sur la guerre des Gaules, forcément. C'est une majeure partie de la vie de Vercingétorix. Et ben oui, on découvre des choses qui sont sourcées, bien sûr, historiquement. Le plus difficile pour moi, ça a été la période de son enfance. Puisque de son enfance, tout ce que l'on sait, c'est qu'il a vu son père mourir devant ses yeux à l'âge de 14 ans. Exécuté devant ses yeux. Voilà.
Exécuté par qui ?
Pardon ?
Exécuté par qui, son père ?
Par son propre oncle.
D'accord. Pour quelle raison ? C'était pour une
un
raison
politique.
De...
Une alliance avec les Romains. Et aussi le père de Vercingétorix, nommé Celtios, souhaitait rassembler déjà les Gaules, comme Vercingétorix l'a fait après, et en devenir le roi. ce qui ne plaisait pas à toutes ces tribus qui avaient tendance à se cogner dessus constamment. Voilà, donc pour écrire l'enfance de Vercingétorix, j'ai beaucoup recherché sur l'enfance globale d'un fils de chef de tribu, quoi.
C'est vrai qu'on imagine à l'époque, bon, quand on dit la Gaule, on imagine que la Gaule était une et indivisible, en fait pas du tout, hein, c'est non, pas la République française d'aujourd'hui, donc il y a des peuples qui sont complètement disparates, il n'y a pas cet esprit hein, que l'on peut retrouver par exemple aujourd'hui de notre pays, qui est une nation au sens propre du terme. Quel va être le rôle de Vercingétorix à un moment donné pour essayer de rassembler tout cela, et pourquoi il le fait? Pourquoi il décide de rassembler ces tribus?
Alors, Vercingétorix a une part de vengeance en lui, un esprit de vengeance, pour venger son père, hein, évidemment, et récupérer un titre qui lui revenait de droit, finalement, puisqu'il est le fils d'une grande lignée de chefs, d'un Celtios.
Donc le fils aîné, je suppose. Fils aîné, je
fils
suppose.
Unique.
Fils unique, d'accord.
D'après ce qu'on sait historiquement, il n'y aurait pas de frère et sœur. On connaît son cousin, Vercassivellaunos, qui l'accompagne durant toute la guerre des Gaules, mais c'est tout ce qu'on connaît. On sait que sa mère existe, aussi, on ne connaît pas son nom. Voilà, son père était un chef renommé, Celtios. Son oncle, son grand-oncle avant lui, Luerne, enfin, il y a toute une lignée d'Arverne, voilà, qui.
Et donc, c'est sur quel lieu qu'il se situe? C'est sur le lieu, donc, aujourd'hui, du Puy-de-Dôme, du département du Puy-de-Dôme, quand vous dites Arverne?
Oui. Alors, il y a deux sites importants qui se situent à côté d'un périphérie de Clermont-Ferrand, donc le site de Gergovie, bien entendu, où a lieu la bataille, où siégeait un oppidum. Et on a une autre colline un peu plus loin qui s'appelle Corinthe. La prononciation, j'ai peur de me tromper, je le dis un peu l'anglaise, Coran ou Corinthe. Voilà, C-O-R-E-N-T, où les archéologues s'activent énormément ces derniers temps, puisqu'ils ont fait beaucoup de trouvailles archéologiques.
D'accord. Martel, vous avez...
Alors Martel, c'est entre Fumel et Cahors.
D'accord. Donc c'est dans ce lieu-là que l'on trouve donc effectivement ce que vous nous disiez,
l'oppidum de Uxellodunum, le lieu élevé, ça signifie en langue gauloise.
Donc c'était un lieu romain, ou un... parce qu'oppidum c'est le nom
du
latin.
Pas du tout, c'est un site des Cadurques, dans la tribu lotoise, Cadurques qui a donné le nom de Cahors d'ailleurs. Donc ces deux chefs qui s'enfuient d'Alésia, Drapès et Lucterios, vont sur cet oppidum stocker une quantité de blé phénoménale, de quoi tenir des années, peut-être pas des années, mais ils vont tenir très très longtemps, et ils vont se retrouver assiégés par les Romains. Pas par César au départ, par un de ses lieutenants, et ils vont mener la vie dure aux Romains, puisque le site est imprenable, ils se font cribler de flèches, ils peuvent pas les prendre, il n'y a rien à faire. Il faut que César vienne en personne ensuite, pour les soumettre en tarissant une source, qui va les forcer à sortir à un moment donné, puisque... Ils vont se retrouver Attention, ils vont se retrouver assiégés en haut, sans chef, puisque Lucterios et Drapès vont se faire prendre à un moment donné en faisant une sortie nocturne pour aller chercher des ravitaillements. Donc on a un millier de Cadurques et autres Gaulois, hein, probablement, puisque le Drapès avait dû ramener de ses hommes, il faut supposer, vont résister à César, un millier sans chef vont résister à César, et c'est là que va s'achever finalement la guerre des Gaules. Officiellement.
D'accord. Entretien avec Vercingétorix. On remonte effectivement le roman que vous avez écrit. On est donc sur un entretien. Donc c'est la veille effectivement de sa condamnation. Il est avec un co-détenu. Qu'est-ce qu'il lui raconte à ce co-détenu?
Eh bien, au départ, il va pas forcément se livrer parce que il faut se remettre dans le contexte. Donc l'histoire démarre donc. Comme tu venais de le dire, un jour avant sa mort, il est éreinté, Vercingétorix, parce qu'il sort de 8 ans de captivité à avoir été montré comme une bête de foire par Jules César. Ce Jules César, après Uxellodunum, justement, va continuer ses campagnes militaires. Il va faire une tournée, en quelque sorte, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il va faire un tour d'Aquitaine, j'en parle ça dans le Silence des Carnix, où il vient faire un tour dans les Pyrénées, justement, pour voir qu'il y a des petites tribus non soumises qui seraient les Convennes et les Consorani, probablement. Il va faire un tour de Narbonnaise, il va prendre le Rubicon, il va passer le Rubicon, comme c'est bien connu, hein, pour s'infiltrer dans Rome, mais ensuite, il va partir combattre Pompée, qui était son ancien frère d'armes, en Espagne, pas très loin, hein, à Lérida d'ailleurs, il Tirta, ça se nommait dans l'Antiquité. Il va partir en Grèce, il va partir en Égypte, et Vercingétorix va suivre toute son expédition.
C'est son trophée à Jules César. Donc à ce moment-là, Vercingétorix qui arrive dans cette cellule, il est complètement éreinté, il sait ce qui l'attend, il a plus d'espoir en rien, et il va se retrouver avec ce jeune Aquitain qui a été pris justement à la bataille de Lérida, selon mon histoire. Hein. Lui, il est fictif, hein, le personnage.
D'accord.
Je l'ai nommé Accio, un prénom dans le proto-basque, hein, puisque je le rappelle, notre langue première était le proto-basque dans les Pyrénées. Et donc, fil en aiguille, il va réussir à se livrer, puisque le jeune Aquitain va être assez insistant envers lui, il va comprendre de fil en aiguille que c'est un chef gaulois, notamment grâce à son torque autour du cou.
D'accord.
Qui est un symbole de noblesse.
Alors on voit sur la photo que vous avez mise, hein, on remontre le livre effectivement que vous avez écrit, on voit ce personnage qui est très maigre, qui a une barbe et des cheveux donc extrêmement longs, qui représente effectivement Vercingétorix, donc vous le dites, hein, au bout de 8 ans, hein, montré par César comme un trophée et quelque part humilié, hein, pour bien dire que c'est lui effectivement aujourd'hui qui est le chef de l'ensemble de ces régions. Je vais lire un premier extrait de votre roman, Grégory Chamfro, c'est le début, chapitre 1, « Un nom offert par les dieux ». Rome, août, moins 46. Des mouches par dizaines suivent deux gardes romains traînant un homme nu, couvert d'éclats de purin et de crachats. Est-ce l'odeur d'excréments ou le parfum de la mort qui les attire? Le captif ne semble même pas sentir leur besogne morbide sur sa peau rêche. La tête basse, camouflée derrière ses longs cheveux châtain clair et sa barbe longuement négligée, rien ne semble l'atteindre. Le brouhaha produit par la foule hors des murs s'éloigne. L'obscurité des couloirs qu'il parcourt dégage une odeur humide. La fraîcheur souterraine oblige les insectes intrusifs à regagner l'extérieur pour se réchauffer sous le soleil de plomb italien. Les matons ouvrirent une porte et le jetèrent sans ménagement dans la cellule qu'elle dissimulait. Le prisonnier resta à terre, le visage face au sol, son immense barbe dans la terre battue. Il ferma les yeux et commença à s'assoupir. Une voix le fit revenir à lui. « Ne restez pas à terre, couvrez-vous, vous allez tomber malade. » Un jeune homme de 18 ans environ, petit, brun et vif, s'approcha de l'homme maigre et éreinté pour l'aider à se relever et lui poser sa propre laine sur les épaules. Il ne répondit pas, le regard vide, il tremblait. Il se blottit ensuite et se coucha sur une planche suspendue, celle sur laquelle son compagnon de prison l'avait fait s'asseoir. Le bienfaiteur lisait l'épuisement et le désir de mourir sur le visage de son nouveau co-détenu. Il a compris rapidement qu'il était gaulois et pas n'importe lequel. Son torque en or autour du cou symbolisait la noblesse. Alors vous précisez, torque, hein, je le précise pour les auditeurs et les éditrices, collier symbolisant la noblesse chez les Gaulois, les Ibères et les Germains. C'est à ça, effectivement, hein, vous le dites, qu'on reconnaissait le fait que un chef, effectivement, était chef avec ce collier autour du cou. Donc là, je suppose que petit à petit, hein, il y a une confiance, hein, qui s'établit entre Vercingétorix et son co-détenu. Et est-ce que quelque part, Vercingétorix n'a pas envie de laisser un témoignage, parce qu'il sait qu'il va mourir, un témoignage à cet homme pour qu'il le parte à travers l'histoire?
Tout à fait. J'ai essayé de jouer le rôle d'Accio, justement, dans ce livre. C'est de prendre et de graver ce qu'il a laissé, ce qu'il a accompli. D'ailleurs, dans ce qu'il a accompli, j'aimerais préciser quelque chose, parce que j'ai pas terminé finalement tout à l'heure mon propos par rapport à la reddition. C'est que finalement, il faut rendre grâce à Vercingétorix sur un point, c'est cette fameuse reddition, puisque ça, en donnant sa reddition à Jules César, il gagne sur Jules César. C'est difficile à comprendre dit comme ça. C'est que finalement, en donnant sa reddition, Vercingétorix fait gagner du temps à ses lieutenants. Et laisse en vie la coalition.
Et qui peuvent s'organiser pour continuer la défense, d'accord.
Ils se sacrifient. Alors, il y a un détail aussi qui n'est pas négligé, et ça, j'en veux un peu aux historiens là-dessus. C'est que tout chef gaulois, celte, de toute l'histoire, hein, tout chef gaulois, celte qui est vaincu, se donne la mort. Et s'il ne se donne pas la mort, c'est son peuple qui la lui donne. Vercingétorix, c'est le seul et unique chef gaulois qui ne se donne pas la mort ou qui la reçoit. Après sa défaite, à Alésia. Donc ça aussi, ça joue quand même. Il va se rendre avec l'aval finalement de son peuple. Donc oui, Vercingétorix donne sa reddition pour faire gagner du temps à ses lieutenants et faire perdurer cette coalition qu'il a fait naître finalement.
D'accord, voilà, donc le but c'est de se sacrifier pour que la lutte continue, que le peuple gaulois continue à résister donc aux légions, aux légions romaines. Et c'est le point de vue donc que vous essayez de faire comprendre, hein, je remonte au livre, donc dans l'entretien donc avec Vercingétorix, hein, Grégory Chamfrault, que vous avez publié récemment. Alors on le précise, hein, c'était un roman, hein, donc forcément c'est ce que disait Boris Vian, cette histoire est vraie parce que je l'ai inventée. Hein, et donc elle est vraie parce que voilà, c'est un récit fictionnel. Pour vous, Vercingétorix, qu'est-ce qu'il représente?
Alors pour moi, Vercingétorix, c'est un immense rassembleur, pour commencer, réunissant toutes ces tribus. C'était une mission totalement quasiment impossible. La majeure partie, c'est ça, quoi. C'est un héros de notre histoire aussi, quelque part.
C'est vrai que dans le récit national, bon, quand on y pense, on pense à Vercingétorix, à Jeanne d'Arc, à Georges Clemenceau, au général de Gaulle, à Napoléon. Voilà, il y a des personnages effectivement qui reviennent. Et c'est vrai qu'avant Vercingétorix, on a un peu de mal à trouver un personnage national. J'ai la sensation, je ne sais pas si vous partagerez cet avis, que c'est le premier personnage national de l'histoire de France.
Oui, alors de France, tout à fait. On peut en trouver un avant. Alors chez les aficionados de la période gauloise, il y en a beaucoup qui adorent Brennus, ou Brennus, on le connaît grâce au fameux bouclier du top 14, hein, pour le rugby. Donc Brennus, qui était un chef gaulois et qui est le premier gaulois et le seul à avoir pris Rome.
D'accord.
D'où la fameuse expression vae victis, en latin signifie malheureux vaincu.
Malheureux vaincu.
On la tient de Brennus. Donc il y en a beaucoup qui idolâtrent, mais qui aiment beaucoup Brennus par rapport à ça. Cependant, Brennus, c'est plus un brut de décoffrage qu'autre chose. Vercingétorix, c'est totalement autre chose. C'est un stratège incroyable qui a su apprendre de César pour vaincre César, puis perdre face à César aussi. Mais c'est un malin.
Qui était capable d'analyser la stratégie que César avait pour pouvoir le combattre.
Oui. Oui, c'est un esprit affûté, Vercingétorix.
Est-ce qu'on sait, parce que bon, pour être un esprit affûté, il y a aussi l'éducation. Est-ce qu'on sait des choses sur l'éducation de Vercingétorix, sur ce qui a pu lui être donné à un moment donné comme élément, je dirais, d'éducation, pour avoir le recul nécessaire pour pouvoir analyser effectivement ce qu'était César, ce qu'il voulait faire et comment arriver à le combattre.
Alors. Ce qu'on sait, c'est que déjà, tout fils de chef de tribu va être éduqué par les druides. Ça, c'est indéniable. Donc, c'est-à-dire qu'il va recevoir une éducation médicinale, philosophique. Ça, c'est indéniable. Ensuite, pour Vercingétorix, c'est un peu particulier, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va être nourri de vengeance très tôt. Donc... Il faut le dissocier des autres enfants de son rang. Et ensuite, sur son adolescence, il va être pris en charge très tôt par les Romains. Puisque c'est une pratique romaine qu'on retrouve aussi chez les Germains, après, à un moment donné, avec une histoire notamment qui est très célèbre, celle d'Arminius. Je ne vais pas développer, sinon on y est demain encore. Hein. Mais,
on commande les pizzas pour ce soir. Le petit Mercaz, là, et il est en... Il le sait, il commande les pizzas pour ce soir.
C'est que tout fils de chef gaulois vaincu, donc Celtios étant vaincu par son oncle, finalement, avec l'aide des Romains, hein, bien sûr, le fils va être pris par les Romains sous leur aile pour être éduqué à la romaine, de manière à ne pas, justement, avoir un esprit revanchard sur les Romains. Bon, ça aura totalement échoué. Par contre, Vercingétorix, lui, il va puiser beaucoup d'informations. Il va apprendre le latin, il va apprendre la stratégie militaire romaine, la cavalerie. Et d'ailleurs, il va être chef de cavalerie de Jules César, ça on le sait très peu. Hein,
d'accord.
Durant les premières batailles de la guerre des Gaules. Hein. Donc, Vercingétorix, à un moment donné, va être amené à trahir Jules César.
D'accord, c'est une histoire de trahison entre les deux hommes.
C'est un jeu de dupes infini durant toute la guerre des Gaules. Entre l'un et l'autre. Ils se connaissent par cœur l'un et l'autre.
D'où le fait de le traîner comme un trophée. C'est aussi une vengeance de la part de César, de le montrer en trophée pour dire, voilà, tu m'as trahi, je vais te faire payer le prix de cette trahison. Oui. Quoi.
Alors ça aussi, c'est un peu le fruit de...
Ça n'a pas trop changé aujourd'hui, hein, au niveau politique. Hein.
Pas du tout.
Non hein, enfin, je dis ça, voilà, mais...
Durant mes dédicaces et autres conférences cet été... J'ai traîné un t-shirt où il y avait écrit Vercingétorix 2027. Bon, c'était humoristique, bien entendu, mais oui, pourquoi pas.
C'est la question que j'ai failli vous poser tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment donné, vous évoquez les élections présidentielles de 2027, c'est-à-dire un personnage qui soit capable d'être un rassembleur ? Parce que visiblement, c'était la qualité de Vercingétorix, d'avoir été un rassembleur, et ça ne s'invente pas. On peut avoir toute l'éducation que l'on veut, le fait d'être un rassembleur, d'avoir du charisme. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait une école de formation en France qui forme à l'école du charisme, quoi. Ou à l'école du rassembleur, ça se saurait depuis longtemps.
Disons qu'il y a toujours un but et un profit derrière, donc Vercingétorix aussi avait probablement un profit. Je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, je peux le lire souvent, notamment par les ouvrages de certains historiens, c'est qu'il aurait souhaité probablement rebâtir un empire celta. C'est-à-dire qui se serait... qui aurait occupé les territoires du Portugal jusqu'au Finistère breton, voire même l'île de Bretagne, jusqu'aux pays slaves, voire au-delà nos racines indo-européennes. C'est pas impossible.
D'accord.
Parce que c'est ce que l'Empire romain a fait après, finalement, quelque part.
Est-ce que tous les empires, effectivement, ont essayé de faire, c'est-à-dire de tracer des frontières mouvantes, forcément, puisqu'il y avait des combats,
mais
que c'était pas des frontières comme aujourd'hui? Qui sont des frontières quand même assez fixées, même si à l'extrême bout de l'Europe aujourd'hui, on voit bien que les frontières ne sont plus tout à fait ce que c'était entre la Russie et l'Ukraine, et qu'on continue à avoir ce qu'il y avait déjà effectivement à cette époque, où le but c'était de conquérir ce que l'autre avait, quoi.
Oui, alors pour nourrir cette théorie, on va dire, il faut se reporter à la bataille d'Alésia, justement, où Vercingétorix va recevoir une armée de secours gigantesque. Lorsqu'il est enfermé, il va demander à quatre lieutenants de s'enfuir pour aller rassembler la plus grande armée possible. C'est ce qui va se passer. Et bon, ça n'a pas suffi pour Vercingétorix, mais c'est ce qui s'est passé. Et on sait que des milliers de soldats sont venus, pas seulement de l'Hexagone, et des tribus locales, qui sont venus de Belgique, qui sont venus des territoires slaves, justement, de l'ancienne Yougoslavie, de l'île de Bretagne, de chez les Ibères. Une fois, je me suis fait reprendre sur un salon de vivre, notamment Bagnères de Bigorre, par un monsieur qui était virulent, qui me dit « vous racontez n'importe quoi ». Mais si, c'est sourcé, ça. On le sait par les écrits de Jules César, justement.
D'accord, par la guerre des Gaules, qu'est-ce qu'il a écrit
dans
la guerre
des Gaules. Oui, tout à fait, Bellum Gaecum, tout à fait.
D'accord, je vais lire juste un dernier extrait de votre roman, et puis après, bah, écoutez, on va arriver au terme de cette émission. Le silence s'empara un instant de la cellule romaine. Vercingétorix roulait de la terre battue entre ses doigts tout en fixant le sol, pensif. Axio le regardait. Il l'admirait. Il était rempli de tristesse et de compassion pour cet homme qui n'aurait jamais dû se retrouver là avec lui. Aussi lui demanda-t-il des explications. Je n'ai pas les mots pour exprimer la désolation qui m'anime. Mais cependant, une question y restait en suspens. Je ne comprends pas pourquoi t'être rendu. Il est vrai que n'importe quel chef gaulois se serait suicidé par déshonneur. Tu n'aurais pas été un grand stratège, Axio. D'après toi, pourquoi ai-je insisté pour que Lucterios, Drapès et Comios s'enfuient d'Alésia? Par amitié, je présume? Tu ne voulais pas les voir captifs? Non. Pas par amitié, par confiance en eux. Il est exact que je ne voulais pas les voir prisonniers de César, mais il y avait un but derrière cela. Il fallait poursuivre notre œuvre. La guerre n'était pas terminée grâce à leur fuite. C'est pour la survie de la coalition que je me suis rendu, pour faire croire à César que sa victoire était acquise et incontestable. Cela a bien fonctionné d'ailleurs. Tu es un homme admirable et respectable, ô grand Vercingétorix. Les dieux ont dû te garder une place de choix à leur côté. Les dieux. Où étaient-ils? Sûrement pas à Alésia. Ou alors, s'ils y étaient réellement, ils ne nous ont aucunement protégés et ont voulu ce dénouement. Entretien avec Vercingétorix. Je remontre le livre, donc c'est de Grégory Chanfroux, vraiment un livre à lire, hein, qui interroge sur un des grands personnages nationaux, effectivement, de notre histoire. Hein. Je le disais tout à l'heure, hein, Vercingétorix, Jeanne d'Arc, on va en trouver beaucoup, Richelieu, Napoléon, Georges Clemenceau, le général de Gaulle. Et puis après, ça s'arrête un peu, on a l'impression. Donc voilà, si on peut effectivement ben voilà, lire ce livre, allez-y, faites-vous plaisir. et venez rencontrer donc Grégory Chanfrou. Vous allez être sur des salons du livre.
Alors là, la période estivale étant terminée, il va falloir attendre maintenant le mois de novembre pour pouvoir me rencontrer sur un salon du livre. Je serai au salon du livre de Souex en Ariège.
D'accord.
Ensuite, ce sera plus à la prochaine fête de Noël où je serai au salon du livre de La Barthe de Nest. Le premier salon du livre de Saint-Gaudens sur deux jours, samedi et dimanche, le premier week-end de décembre, je crois, ou dernier novembre, je sais plus trop. Je serai aussi chez Man Press, à l'Intermarché de Man, dans le Comminges. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a de calé jusqu'à.
Bon, voilà. De toute façon, il y a un site où on peut voir vos.
Alors, vous pouvez, je vous invite à aller sur mon Facebook, Grégory Chanfrou auteur, où je publie parfois des photos là, puisque je suis en train d'écrire le guide gaulois gallo-romain du Comminges et sa couronne. Alors c'est sur les conseils de Monsieur Noni justement que j'ai écrit ça.
Bah oui,
j'ai une demande bien sûr.
On a de bonnes idées sur présence. Hein.
Tout à fait, tout à fait. J'allais le dire. Donc voilà, qui pourra ensuite concourir pour le prix guide. Du Salon du Livre Pyrénéen l'année prochaine.
Voilà, je vous l'avais dit, ça, justement, après l'écriture du roman que vous aviez fait, Le Silence des Carnix, pour que les lieux que vous indiquiez puissent aussi être visités par les personnes pour aller voir les différents éléments restants que les Gaulois ont laissés, effectivement, sur place. Entretien avec Vercingétorix de Grégory Chanfrou. On vous remercie beaucoup, Grégory, puis on va vous suivre. Hein, quand
merci
vous
à vous, merci
roman,
à
vous. Vous viendrez nous voir, ce sera avec grand plaisir. Voilà ce qu'on pouvait dire. Nous, on se dit, Diego Arrabal,
à la semaine prochaine,
comme d'habitude. Hein, et puis, on retrouvera notre Philippe Subercase.
Présence à Montrégio, 94.1.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Audience générale, Léon XIV a clos son cycle de catéchèse sur Sacrosanctum Concilium.